Bienvenue à tous, il est 6h sur Europe 1.
C'est une situation incroyable et inimaginable. Aucun de nous n'aurait pu la prédire.
Le choc et la stupéfaction à Miami, en Floride, après l'effondrement d'un immeuble cette nuit. Au moins un mort et une centaine de disparus. Dans ce journal, à deux jours du second tour des régionales, Nicolas Sarkozy sort du silence et affiche son soutien à Renaud Muselier en PACA. Les dangers des paris sportifs en ligne, ils explosent avec l'euro de foot. On s'intéressera au profil type des emprunteurs, région par région. Et puis un nouveau manga à découvrir à la fin de ce journal. Un indice, il pourrait être le digne descendant d'Olivier Tom.
À suivre la page des sports et mon invité inattendu qui est un champion du monde ce matin. Champion du monde de jeu de billes, les billes qui traversent le temps, indémodable. La preuve avec cette nouvelle émission de TF1 ce soir, un concours de billes spectaculaire. Mon invité inattendu donc à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les images du bâtiment en ruine font froid dans le dos. La nuit dernière, dans la banlieue de Miami, en Floride, un immeuble résidentiel de 12 étages s'est effondré partiellement. Les secours sont toujours sur place pour tenter de retrouver des survivants. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour Sophie.
Correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Pour l'instant, le bilan fait état d'un mort et 99 personnes sont toujours portées disparues.
Oui, et les équipes de secours ont commencé à creuser sous les décombres, car la montagne d'acier et de béton est trop instable pour chercher en partant du dessus. Des secouristes disent avoir entendu du bruit, pas de voix humaine, mais des bruits de coups, ce qui entretient encore l'espoir de retrouver des survivants. 102 résidents ont été identifiés, ils sont sains et saufs, mais 99 personnes sont toujours portées disparues. Grande inquiétude, car le drame s'est donc produit en pleine nuit, hier autour d'1h30 du matin. C'est d'abord la partie centrale de ce bâtiment résidentiel de 12 étages qui s'est effondré. Quelques secondes plus tard, l'aile droite s'est écroulée à son tour. Des habitants ont expliqué avoir cru à un tremblement de terre. L'aile gauche est, elle, encore debout face à l'océan. Et on peut voir l'intérieur des appartements éventrés, coupés en deux. Alors pour le moment, on ne connaît pas les raisons de cet effondrement. L'immeuble construit en 1981 était en cours d'inspection. Des travaux venaient d'être effectués sur le toit. Les recherches se poursuivent. Donc cette nuit, le gouverneur de Floride a déclaré l'état d'urgence et Joe Biden a lui assuré que l'État fédéral américain fournirait toute l'aide nécessaire.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis en Chine, 18 personnes sont mortes et 16 ont été blessées ce matin dans la province du Henan, dans le centre du pays, après l'incendie d'une école d'arts martiaux. La plupart des victimes sont des élèves âgés de 7 à 16 ans.
L'actualité en France et la politique, le second tour des élections régionales et départementales. Dimanche, à deux jours du scrutin, Nicolas Sarkozy se mobilise pour la région PACA et s'engage contre le Rassemblement national.
L'ancien chef de l'État livre aujourd'hui une interview exclusive à Nice Matin et affiche son soutien au président sortant, Renaud Muselier, alors qu'un duel serré l'attend contre le candidat RN, Thierry Mariani, 51% contre 49% selon un sondage publié hier. Et Aurélie Arbemont, Nicolas Sarkozy s'était pourtant retiré de la vie politique. Renaud Muselier est le seul candidat pour lequel il s'engage publiquement.
Et oui, impossible pour Nicolas Sarkozy de laisser son ami Renaud Muselier seul au front. Il y avait trois pistes d'intervention, confie l'équipe de campagne. Un déplacement, une vidéo sur les réseaux sociaux ou une interview dans la presse. C'est cette dernière option qui a été retenue par l'ancien président. Puisque la gauche s'est désistée, pas besoin d'aller sur place, glisse un de ses amis. Un déplacement aurait d'ailleurs pu être contre-productif, car dimanche, Renaud Muselier aura aussi besoin des voix de gauche. Pas question de braquer le moindre électorat. Un de ses proches espère que le coup de pouce de l'ancien président pourra mobiliser les abstentionnistes de droite. Nicolas Sarkozy tense d'ailleurs les élus LR qui ont refusé de faire campagne, voire de voter Muselier au premier tour à cause de l'accord avec En Marche. Si Renaud perd, vous perdrez tous, prévient-il. Avant d'égratigner son ancien ministre, Thierry Mariani, passé sous pavillon RN, la trahison des engagements, c'est lui. Bref, Nicolas Sarkozy utilise son aura d'ancien chef de l'État pour essayer d'empêcher Marine Le Pen de décrocher une région.
Aurélie Arbemont du service politique d'Europe 1.
C'est un cold case, comme on dit, une affaire non résolue et qui est peut-être en passe justement d'être résolue. Celle de la disparition de Lucas Tronche à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard en 2015.
L'adolescente de 15 ans s'était volatilisée sans laisser de traces. Des ossements viennent d'être retrouvés ainsi que des restes de vêtements. Des examens devront confirmer s'il s'agit bien de Lucas Tronche. Verdict attendu aujourd'hui au procès du féminicide de Sylvia Boucher, tuée et jetée du haut d'un barrage en 2018 par son ancien compagnon en Haute-Loire. L'homme n'avait pas accepté la nouvelles relations de la victime. Il encourt la réclusion à perpétuité.
Vous les avez certainement vus fleurir un peu partout dans les rues, les couloirs de métro. Ces affiches publicitaires pour les paris sportifs en ligne. La pratique explose évidemment en plein Euro de football.
25 millions de mises rien que pour le match des Bleus contre la Hongrie samedi dernier. Un record absolu. Bonjour Zoé Pallier.
Bonjour.
L'Autorité nationale des jeux alerte, les parieurs sont de plus en plus jeunes ?
Oui, parce que même si officiellement il faut avoir 18 ans pour parier, en fait c'est assez simple pour un mineur de mentir sur son âge, surtout depuis que tout se fait sur Internet. Résultat, d'après l'association SOS Joueurs, 4 jeunes de 17 ans sur 10 font des paris sportifs. La majorité, ce sont des adolescents des quartiers populaires. Et ça, eh bien, les géants du secteur l'ont bien compris puisqu'ils font de ces jeunes la principale cible de leur campagne marketing.
Et d'ailleurs Zoé, vous avez constaté ce phénomène auprès des jeunes de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. On écoute votre reportage.
Impossible de manquer les grandes affiches publicitaires placardées sur tous les abribus dans la rue du collège. Elles mettent en scène un rappeur star chez les jeunes qui joue les plus grosses cotes et gagne des millions.
Moi, ça m'a attiré directement, l'affiche. Et aussi, il y a beaucoup de pubs sur les réseaux, sur Snapchat surtout.
Une opération séduction réussie. Dans la cour de récré, ici, c'est un peu la compétition à qui misera le plus grâce au code de carte bleue d'un grand frère ou d'un parent.
Quand tu paries, tu ressens mieux les émotions et tout ça. Par exemple, si ton équipe, elle marque, tu vas crier parce que t'as parié une grosse somme d'argent.
Si t'as pas parié, tu vas dire ouais, bof.
Au risque de devenir accro, Antoine et Erwan ont 16 ans. La sonnerie de la récré n'a même pas fini de retentir qu'ils se jettent sur leur téléphone.
Quand c'était la pause du foot en attendant l'Euro, j'avais envie de gagner de l'argent quand même, hein, et vibrer aussi sur les matchs. Et du coup, tu paries des trucs que tu connais même pas. Du foot australien, du hockey et tout, à 2h du matin, 3h.
Puis quand tu fais ça, c'est quand tu commences à perdre. Et là, tu commences à faire un peu n'importe quoi. T'as envie de regagner vite. Au final, tu perds encore plus.
Karim vient justement de laisser filer 50€ après cette plusieurs fois promis d'arrêter.
Moi, ça m'est même arrivé mettre des 200€, 250, juste pour un match. Et en même temps, on a grandi dans ça, ça veut dire maintenant tout le monde le fait. Les grands de notre quartier, ils font des paris et après nous, on rentre dans l'engrenage. On essaye à faire pareil.
Et ce, malgré l'exemple de jeunes adultes dans leur entourage qui se retrouvent endettés après avoir perdu des centaines, voire des milliers d'euros en paris.
Zoé Pallier, on entend votre reportage. Concrètement, que fait le régulateur, l'Autorité nationale des jeux ?
Alors sa présidente me l'a indiqué hier, elle vient d'envoyer une lettre aux opérateurs pour les mettre en garde et leur rappeler deux choses essentielles. Déjà qu'ils ont l'obligation de protéger les joueurs en les redirigeant par exemple vers des structures de soins pour les plus addicts. Leur rappeler ensuite que le régulateur peut décider de retirer toute publicité jugée mensongère.
Merci à vous Zoé Pallier, dossier complet ce matin sur ces paris en ligne.
Comme chaque année, le site meilleurtaux.com dresse le profil type de l'emprunteur immobilier. Alors, qui emprunte, quel montant et sur combien d'années ? Et cette année, le profil type a été réalisé région par région. Résultat, Carole Ferry, on remarque qu'il y a pas mal de disparités.
Alors depuis le début de l'année, les Français empruntent en moyenne 193 204 euros avec un revenu d'un peu plus de 4 300 euros net par mois pour l'ensemble du foyer. Ça c'est la moyenne nationale, mais qui cache en effet d'importantes disparités suivant les régions. En Île-de-France, l'emprunt moyen est supérieur à 298 000 euros, quasiment deux fois plus important par exemple qu'en Bourgogne-Franche-Comté, car bien entendu le prix de l'immobilier n'est pas le même, mais il y a également des écarts très importants de revenus selon Maël Barnier, porte-parole de meilleurtaux.com.
Malheureusement, c'est vrai qu'on constate que selon les régions, les emprunteurs moyens n'affichent pas du tout les mêmes revenus. On est quasiment du simple au double qu'entre Bourgogne-Franche-Comté où on est à 3700 de revenus par foyer par mois, quand on est à plus de 6000 en Ile-de-France. Et on sait très bien qu'à Paris, l'emprunteur moyen, les foyers affichent plus de 8500 euros net par mois. Donc oui, il y a des grosses disparités malgré les bouleversements récents du marché de l'immobilier et de la demande.
Enfin, les emprunteurs ont en moyenne 37 ans et empruntent sur 21 ans.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. C'était une première. Des centaines de salariés de SFR se sont mis en grève pendant plusieurs heures hier à l'appel de l'intersyndicale pour protester contre les suppressions de postes en 2021.
Il est 6h09 sur Europe 1. Un mois après le déconfinement, le retour à la vie normale se poursuit dans les EHPAD aussi.
Oui, Dieu sait que ces établissements ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Hier, les résidents de l'EHPAD Saint-Georges près de Villers-Cotterêts ont pu profiter de leur premier bal musette et vous allez entendre que certaines n'ont pas hésité à pousser la chansonnette. Yasmin Akatou.
Sous les guirlandes de lampions et de fanions multicolores typiques des bals musettes, les sourires se voient sur tous les visages démasqués des résidents. Françoise, 78 ans, s'est pomponnée pour l'occasion.
C'est une robe à moi. Elle est rouge avec des fleurs noir et tout, quoi, voilà. On m'a mis un petit peu de rouge à lèvres.
Je vous ai vu danser.
Oui, c'est vrai, avec une dame que je connais bien. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est tout.
Ça vous a un peu dégourdi les jambes.
Oui.
Assise à côté de Françoise Yvonne.
J'ai 92 ans, madame, et toute ma tête.
Ses hanches ne lui permettent plus de valser sur la piste comme à l'époque, alors Yvonne chante à gorge déployée. Ce bal musette, c'est la bouffée d'air qu'attendaient tous les résidents, explique Yvonne.
On a perdu beaucoup de choses. Avant, on avait notre chorale, on avait des jeux. Maintenant, depuis qu'on a eu le virus, ça a été un petit peu pour l'année. C'est vrai. Moi, je déprime. Moi, il faut que ça bouge.
Les yeux embués, Yvonne confie, cette journée restera gravée à jamais dans ma mémoire. Wow. À Keuvre et Valserie, dans l'Aisne, Yasmina Kentou, Europe 1.
C'est beau, ça fait du bien de voir que la vie reprend aussi pour les anciens. On va enchaîner avec une chanson alors plus récente, quoique, mais qui va éveiller en tout cas quelques souvenirs chez certains.
Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier.
Ah ben, c'est toute mon enfance.
Pas Olivier tellement Tom. La mienne, mais pourquoi pas. Olive et Tom, effectivement, dessin animé culte pour les amateurs de ballons ronds, dessin animé tiré d'un manga. Et justement, un nouveau manga de foot vient d'être publié en France, ça s'appelle Ao Hashi. Les deux premiers tomes sont disponibles en librairie. Clément Le Saffre, évidemment, vous l'avez lu pour nous. Alors, est-ce que c'est le digne successeur d'Olive et Tom ?
Ah oui, c'est un vrai régal pour les fans de foot. Dans Ao Hashi, on suit l'ascension d'Aoi Hashito, un ado de 15 ans, star de l'équipe de foot de son collège et qui rêve de devenir un jour professionnel en J-League, la Ligue 1 japonaise. Sauf qu'il joue un peu trop perso et qu'au haut niveau, eh bien ça ne suffit pas. Aoi va donc devoir s'entraîner dur pour percer. Et c'est là, justement, qu'Ao Hashi se démarque d'Olive et Tom. Pas de tir surpuissant qui casse les buts, ni de terrain long de 10 km. L'auteur Yugo Kobayashi a privilégié une approche plus réaliste du football. Sullivan Rouault, directeur de collection du label Mangetsu.
L'auteur est un vrai passionné de foot. Ao Hashi fait appel à des joueurs de la vraie vie. Là, dans le tout dernier chapitre, il a dessiné Cristiano Ronaldo pour expliquer un petit peu l'apport physique aussi que certains joueurs peuvent avoir, ou en tout cas athlétique. Et il en tire une vraie sève tactique qui va vraiment servir à appuyer son propos, notamment, je sais pas, sur la défense à 5 ou un contrôle orienté, le contrôle passe, etc.
Et cet ancrage dans la réalité du foot rend Ao Hashi véritablement passionnant avec son héros borné mais attachant. Le manga exalte le dépassement de soi, la force du collectif. Au Japon, la série connaît un bel engouement hein, avec 24 tomes déjà parus et une adaptation en dessin animé verra même le jour l'année prochaine.
Merci beaucoup Clément Le Saffre.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, 6h12.